Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient, vous le savez, tous les jours à cette heure-ci, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le nouveau bras de fer entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale, puisqu'hier, le président soudanais a pu quitter l'Afrique du Sud, où il participait au sommet de l'Union africaine. Il est donc rentré chez lui, hier après-midi, à Khartoum, en homme libre. Pourtant, Omar El-Béchir est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et génocide. Un tribunal sud-africain avait même interdit à Omar El-Béchir de quitter le pays. Mais une fois de plus, force est de constater que le président soudanais a nargué la justice internationale sans que les autorités sud-africaines n'interviennent. Alors que vous inspire ce camouflet pour la CPI ? Les autorités sud-africaines auraient-elles dû arrêter Omar El-Béchir ? Le sujet suscite beaucoup de réactions. Déjà sur la page Facebook, plus d'un millier de commentaires postés sur la page d'appel sur l'actualité. 1320 exactement à cette heure-ci. Au standard, vous êtes également très nombreux, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. En tout cas, cette polémique démontre à quel point les relations sont tendues entre la CPI et les gouvernements africains qui estiment que la Cour s'acharne, à tort ou à raison, en tout cas, dit-elle, elle s'acharne injustement sur ce continent. On va en parler évidemment dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les différents sujets que nous traitons dans nos journaux tout au long de la journée. Plusieurs questions concernant le processus de paix au Mali. Al Mokhtar est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Yohan. Bonjour, les auditeurs.
Alors, vous êtes justement au Mali.
Ah, voilà, Mali.
Vous nous appelez de Bandiagara, oui. Dans le centre du pays. On vous écoute.
Oui. Alors, le gouvernement malien et les rebelles Touareg ont signé deux documents en Algérie. En vue de l'accord de paix du 20 juin, pourquoi ont-ils signé ces deux documents? Quels sont leurs contenus? Quelles conséquences ces documents auront sur la résolution du conflit au Mali?
C'est vrai que le gouvernement malien et les rebelles Touareg ont signé récemment deux documents, dont un accord de cessez-le-feu. Bonjour Serge Daniel. Serge?
Juan, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne, Serge Daniel, l'un des correspondants d'RFI au Mali. Alors, il y a tout juste un mois, il faut quand même le rappeler, c'était le 15 mai, un accord de paix a été signé par le gouvernement malien et les groupes armés pro-gouvernementaux. Le problème, c'est que les principaux groupes rebelles du Nord, les principaux concernés, eux, avaient refusé de signer le document. Ils affirmaient que le texte ne répondait pas aux réalités de la crise. Ils avaient donc réclamé de nouvelles discussions. Et c'est justement ces discussions qui ont donné lieu à la signature, il y a quelques jours, de deux documents. De quoi s'agit-il exactement, Serge Daniel?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement deux documents. Le premier document est un relevé de conclusion. Attention, un relevé de conclusion n'est pas un nouvel accord. La différence est de taille, parce que juridiquement, ça n'a pas la même contrainte. Alors, dans ce relevé de conclusion, il y a, disons, deux points essentiels. Il est dit que sur le plan sécuritaire dans le Nord, l'armée malienne reconstituée doit être majoritairement et prioritairement composée des groupes, des groupes armés, les éléments des groupes armés, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad. Ensuite, la médiation s'engage à rendre possible de nouvelles discussions autour du thème de l'Azawad. L'Azawad, c'est la terminologie, vous savez, par laquelle les rebelles désignent le nord du Mali. Alors, ne tournons pas autour du pont. Terminologie qui, pour eux, renferme les germes de leurs revendications autonomistes. Dans l'accord signé par le gouvernement malien et paraphé par les rebelles, il est dit qu'une conférence nationale va débattre de la question de l'Azawad, qui est plutôt une réalité culturelle. Or, dans le relevé de conclusion, il est dit que cette réunion autour de la notion de l'Azawad doit plutôt réunir des cadres de régions du nord du Mali. Alors, dans le deuxième document, qui est un arrangement sécuritaire, il s'agit de la situation dans la localité de Menaka. La localité était aux mains, on le sait, de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le Gatia, qui est un groupe armé pro-gouvernement, s'y est installé par surprise. Mmh. L'arrangement sécuritaire dit ceci. Un, le Gatia va quitter les lieux. Deux, Menaka sera sous la protection des casques bleus. Et trois, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, va s'installer à une vingtaine de kilomètres de la ville. Ce mardi d'ailleurs, en principe, une délégation composée de rebelles, de représentants du gouvernement et de la mission de l'ONU, cette délégation doit en principe se rendre sur le terrain pour voir si l'opération décidée se dessine clairement sur le terrain.
Donc vérifier que le retrait des groupes armés de Ménaka est effectif et réel. À la suite de la signature de ces deux documents, on a entendu dire que finalement la coordination de mouvement de la Zawad signera bel et bien le 20 juin, donc dans quelques jours, l'accord définitif de paix. Est-ce qu'on peut le confirmer ?
Oui, j'ai eu des responsables de la rébellion, Almon Mohamed, il s'appelle. Il m'a dit, nous allons venir à signer l'accord de paix du 20 juin parce que nous estimons, il n'y a aucune raison de croire, de ne pas croire que les deux documents que nous avons signés ne seront pas mis à exécution. Donc, il y a de l'espoir, mais vous savez, dans ce genre de situation, ouais, il faut attendre le jour J. Le 20 juin, c'est samedi. Donc d'ici samedi, on verra bien si ils viendront ici à Bamako, drapés dans de beaux boubous, comme d'habitude, de beaux turbans, pour signer l'accord de paix.
Autre question, restez avec nous Serge Daniel, toujours sur le processus de paix dans le nord du Mali. Ahmet, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute. Hein.
Oui. Oui, les rebelles ont d'abord refusé de signer l'accord le 15 mai. Mais ils ont annoncé finalement qu'ils vont le signer le 20 juin. Alors, pourquoi les rebelles sont-ils revenus sur leur décision ?
Est-ce qu'on peut parler d'une volte-face de la coordination des mouvements de la Zawad, Serge Daniel ?
Non, moi je parlerai plutôt de questions de stratégie des négociations. Vous savez, effectivement, dans un premier temps, les rebelles avaient dit non, on refuse de signer l'accord. Les Algériens ont dit, bon d'accord, vous ne signez pas l'accord, mais il faut le paraffer, c'est-à-dire la petite signature. Et les rebelles disent, non, nous devons forcément consulter notre base. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qui était arrêté parce que, encore une fois, dans l'accord, il dit clairement que l'unité nationale du Mali est non négociable, son intégrité territoriale. Or, les rebelles se sont battus depuis le début. Où une partie des rebelles s'est battue depuis le début sur ces revendications autonomistes. Il fallait reculer pour mieux sauter. Donc, ils ont dit non. Après, ils ont paraffé. Après, il y a eu évidemment des pressions, puisque la communauté internationale joue un rôle important dans cette partie du nord du Mali, des pressions. La partie gouvernementale a accepté de revoir les rebelles pour signer ces deux documents, donc ils n'ont pas voulu perdre la face, mais d'un autre côté, ça a été plutôt, je dirais, une technique de négociation.
Merci Serge Daniel de nous avoir décrypté justement la stratégie des rebelles du Nord, de la coordination des mouvements de la Zawad. 33 9 693 693 70, des questions concernant l'opposant de Birmane, Aung San Suu Kyi. Bonjour fiston.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous nous appelez du Togo, on vous écoute.
Oui, j'appuie sur votre antenne que la célèbre opposante birmane Aung San Suu Kyi a effectué la semaine passée une visite en Chine. Et pourtant, le gouvernement chinois a pendant longtemps été un acolyte du gouvernement birman. Quelles sont les raisons pour lesquelles Aung San Suu Kyi s'est rendue en Chine ? Quelles sont les conséquences qu'une telle visite peut avoir sur les relations entre le gouvernement chinois et celui birman ?
C'est une bonne question que vous posez. C'est vrai qu'on peut être surpris par cette visite qui a d'ailleurs été qualifiée d'historique par la presse chinoise. Aung San Suu Kyi qui se rend à Pékin, le régime chinois qui a quand même soutenu durant des décennies la dictature birmane, qui a été responsable, rappelons-le, de la détention durant une vingtaine d'années d'Aung San Suu Kyi. Pour essayer de comprendre justement ce déplacement à Pékin, avec nous Sophie Boisseau du Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des relations entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales. Comment expliquer le déplacement d'Aung San Suu Kyi, qui s'est terminé d'ailleurs il y a quelques jours, c'était dimanche qu'elle est revenue en Birmanie. Comment expliquer une telle visite ?
Écoutez, la première raison, c'est qu'elle a été invitée par les plus hautes instances du Parti communiste chinois, et donc elle a répondu à l'invitation. Alors, que cherchait la Chine en invitant cette icône de la démocratie et des droits de l'homme en Birmanie ? D'abord, probablement montrer son mécontentement vis-à-vis du gouvernement de Naypyidaw, qui est aujourd'hui un gouvernement plus ouvert, tournée vers l'Occident et qui n'hésite plus à montrer son autonomie, voire de la distance à l'égard de Pékin. On se souvient du fameux barrage qui a été suspendu alors que les Chinois avaient déjà investi pas mal d'argent sur ce projet.
Donc si je comprends bien, la Birmanie est un pays stratégique pour la Chine. La Chine en a besoin pour des raisons économiques notamment.
Alors, la Chine en a besoin pour des raisons économiques et stratégiques. Économiques parce que c'est un pays qui détient de nombreuses matières premières dont la Chine a besoin. Stratégique parce que c'est un pays qui permet un accès à l'océan Indien et donc c'est essentiel à la fois pour les importations d'hydrocarbures chinoises. Vous savez que depuis 2009, il y a un accord pour un pipeline qui permettra l'acheminement du pétrole du Moyen-Orient vers la Chine et donc représente une alternative au fameux détroit de Malacca. Et puis, d'autre part, parce que si la Chine veut se déployer dans l'océan Indien, le concours de la Birmanie est nécessaire. Donc, c'est un allié particulièrement intéressant. Oui. Et donc, dans la perspective des prochaines élections législatives, qui vont normalement avoir lieu en novembre prochain, il est important de montrer que la Chine joue également le jeu, je dirais, électoral, se rapproche du principal parti d'opposition, de celui qui est le mieux placé pour remporter ces élections, et donc prépare l'avenir.
Ouais, prépare l'avenir en sachant qu'Aung San Suu Kyi ne sera pas présidente, puisque la constitution birmane lui interdit d'être présidente du pays. Mais enfin, c'est vrai qu'en cas de victoire, et c'est quasiment certain, du parti d'Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix aura un rôle clé dans la Birmanie de demain.
Absolument, et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'elle-même amende décret de la Constitution. Donc c'est cet article de la Constitution. Donc les cartes sont encore tout à fait, ou les jeux sont encore tout à fait ouverts, et je crois simplement que la Chine voulait montrer que de façon très pragmatique, elle n'était pas seulement soutien de la junte, mais qu'elle jouait également le jeu de l'ouverture politique décidée par le président Pinchin.
Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher d'avoir été avec nous quelques instants ce matin pour répondre à Fiston, à qui on souhaite une bonne journée, à Adaba Wéré, c'est au Togo où il nous écoute fidèlement tous les matins. 10h23 à Paris, des questions maintenant sur le bras de fer entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale. Simon Forman, bonjour. Simon Forman ?
Oui, vous m'entendez ?
On vous entend parfaitement bien, ravi de vous entendre. Vous êtes le président de la coalition française de la Cour pénale internationale. On vous a demandé ce matin d'être avec nous car on croule sous les questions après, évidemment, le nouveau rebondissement dans le feuilleton Omar El-Béchir CPI. Ousseini est avec nous, il nous appelle du Niger. Bonjour Ousseini.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à Simon.
On vous écoute.
Alors, mes questions sont les suivantes. Étant donné que l'Afrique du Sud a signé le statut de Rome, n'est-elle pas obligée de se conformer à la demande de la CPI ?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Simon Forman, que les choses soient claires, en tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud avait l'obligation d'arrêter Omar El-Béchir.
Oui, absolument. Oui. Tous les pays qui ratifient le statut de Rome s'engagent à lui apporter leur soutien, leur coopération. La Cour a été créée en 98, mais sans force de police propre spécifique. Elle ne peut s'appuyer que sur les forces de police de ses États membres, notamment pour exécuter, par exemple, les mandats d'arrêt. Ouais. Et l'Afrique du Sud avait absolument cette obligation.
Ouais. La CPI qui dépend donc du bon vouloir des États membres. En même temps, le gouvernement sud-africain avait accordé avant le début du sommet de l'Union africaine, l'immunité à tous les dirigeants qui venaient participer à ce sommet.
Oui, c'était sans doute une situation un petit peu difficile pour l'Afrique du Sud qui était prise entre son désir d'accueillir un sommet de l'Union africaine pour lequel l'Union africaine, en tant qu'organisatrice du sommet, demandait, et c'est logique, l'immunité de tous les participants. En même temps, l'Afrique du Sud avait déjà par le passé fait comprendre à Omar El-Béchir que s'il venait fouler son sol, il risquait d'être arrêté, puisqu'en 2009 ou en 2010, lorsque pour la cérémonie d'investiture du président Zuma et en 2010 pour la Coupe du Monde, Omar al-Béchir avait envisagé de se rendre en Afrique du Sud, il y avait renoncé parce qu'il savait qu'il courait le risque d'être arrêté. Et beaucoup, beaucoup d'autres pays, ça n'est pas un président qui voyage comme il veut, Omar al-Béchir.
Oui, enfin, en même temps, depuis qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, il s'est déplacé quand même 45 ou 46 fois à l'étranger, donc il voyage malgré tout.
Il voyage là où il obtient des assurances. Il n'a plus pu mettre les pieds en Europe, il n'a pas pu venir en France, il n'a pas pu se rendre au Danemark. Il y a un certain nombre de pays qui lui ont fait comprendre que s'il venait, le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale serait exécuté. Le procureur à l'époque avait fait savoir qu'il examinait même les trajets aériens qu'il pourrait faire pour aller d'un pays du Soudan vers tel ou tel pays pour éventuellement, s'il survolait un pays qui accepterait de le faire, intercepter le vol et le faire se poser et se faire arrêter. C'est quand même un président qui est plus ou moins limité dans sa capacité de déplacement, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça ne sera pas éternel, mais jusqu'à aujourd'hui, il a échappé aux arrestations.
Ousseini, vous aviez une autre question.
Oui. Maintenant que l'Afrique du Sud a laissé Omar el-Béchir quitter son territoire, ne risque-t-elle pas de sanctions?
Ah, quelles conséquences pour l'Afrique du Sud? Des sanctions, alors, ça semble un peu compliqué, mais j'imagine qu'il peut y avoir des conséquences diplomatiques.
Je pense que les principales sanctions seront au niveau diplomatique. Dans le statut de la Cour pénale internationale, lorsqu'un pays refuse de s'acquitter de son devoir de coopérer, la Cour peut transmettre cette situation à un organe politique qui est l'Assemblée des États partis, qui est présidée par Sidiki Kaba, le ministre sénégalais de la Justice. Donc c'est cette Assemblée des États partis, organe politique, qui peut décider de la suite à donner au refus de coopération d'un pays, ou bien c'est cumulatif. La Cour peut également transmettre le dossier au Conseil de sécurité parce que la situation du Soudan et du Darfour lui a été déférée par le Conseil de sécurité. Mais enfin, on sait bien qu'au niveau politique, malheureusement, les sanctions sont assez peu probables.
Ouais. Autre question au standard, elle nous vient du Gabon. Souleymane, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute avec Simon Forman, le président de la coalition française pour la CPI.
Oui, la CPI a demandé au gouvernement sud-africain d'arrêter le président soudanien Omar el-Béchir. Est-ce vrai, la CPI juge seulement les dirigeants africains? Si oui, pourquoi?
Est-ce vrai que la CPI juge seulement les dirigeants africains? Alors c'est vrai que les détracteurs de la Cour pénale internationale accusent cette institution de ne poursuivre que des Africains. Et les faits leur donnent raison tout de même, Simon Forman.
Oui et non. La CPI, elle enquête en ce moment sur la Colombie, sur l'Afghanistan, l'Irak, la Palestine, le Honduras, la Corée, la Géorgie, et j'en oublie peut-être. Maintenant, c'est vrai que les Africains, les gouvernements africains ont été les premiers à ratifier le statut de la Cour et à saisir la Cour, et c'est tout à leur honneur. Mais il faut voir les choses peut-être en renversant la perspective. C'est vrai que les premiers procès de la Cour ont visé des Africains parce que l'Afrique a été la première à travailler avec cette Cour, mais renverser la perspective, ne pensez pas qu'elle juge seulement les dirigeants africains, pensez qu'elle protège, historiquement, elle a d'abord protégé des victimes africaines, parce que s'il y a eu besoin de saisir la Cour d'un certain nombre de situations qui se passaient en Afrique, c'est parce qu'il se commettait sur le continent africain des crimes abominables qui ont fait des millions de victimes africaines au premier plan.
Alors comment expliquez-vous, Simon Forman, la mauvaise image de la CPI en Afrique? Comment expliquer que des chefs d'État, on a encore en souvenir, en mémoire évidemment, les propos du Premier ministre éthiopien qui présidait l'Union africaine il y a 2 ans et qui disait « la CPI est une sorte de chasse raciale ».
Je crois qu'il y a eu un raidissement des relations entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale qui a abouti aujourd'hui à une hostilité franche et ouverte de l'Union africaine qui a commencé lorsque la Cour ne s'est plus limitée comme dans les premiers temps à viser des chefs de guerre, des combattants sur le terrain, des gens de niveau assez modeste et qu'elle a commencé à s'intéresser à des chefs d'État. Là, tout d'un coup, les dirigeants de l'Afrique ont pris conscience que l'article qu'ils avaient signé en ratifiant le statut en vertu duquel aucune immunité ne peut être invoquée devant la Cour, y compris les immunités diplomatiques ou les immunités de chef d'État, eh bien cet article n'allait pas rester lettre morte. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce raidissement que vous évoquez. Je ne suis pas sûr que l'hostilité soit une hostilité africaine dans son ensemble. Je pense plutôt que c'est une hostilité des dirigeants.
Bon, en tout cas, on verra ça dans 10 minutes, juste après le journal avec les auditeurs. Ils sont extrêmement nombreux à souhaiter réagir au bras de fer CPI Union africaine. Merci beaucoup, Simon Forman, d'avoir été avec nous, président de la coalition française pour la CPI.